France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
L'œuvre de Kafka est traversée par un rapport ambigu à la notion de justice. La justice au sens administratif, concrète du terme, est omniprésente. Du procès au château, c'est une absurde et omnisciente machine invisible qui, tout en étant entièrement insaisissable, détermine inévitablement le cours de la vie de ses personnages. Mais la justice, au sens plus existentiel, au sens propre du mot, est absente des récits de Kafka. Il n'y a pas de fatum à proprement parler, pas de justice transcendante délivrée par un destin ou un quelconque dieu. C'est peut-être à cause de son regard aiguisé, inquiet et lucide sur la société qui l'entoure, que Kafka semble comprendre la direction que prend le monde. Certains ont même suggéré qu'on peut lire chez Kafka comme une anticipation des horreurs concentrationnaires à venir, prenant racine justement dans une justice à la fois trop présente et complètement absente. C'est ces perspectives, entre autres, qu'évoquent Alain Robbe-Grillet, Benjamin Lortolari et Georges Kegeman, dans ce cinquième épisode de la journée Kafka d'Isabelle Huel, Jacques Taroni et Jean Dave, diffusé pour la première fois sur France Culture le 17 septembre 1983. L'occasion de réfléchir sur le lien entre la justice, l'État et l'autorité, ici placé sous le signe de l'étrangeté et de l'altérité. Kafka visionnaire, c'est tout de suite, dans les nuits de France Culture.
On est complètement convaincu par ces pages de...
De quoi ?
Convaincu par ces pages de justice fictive.
Ah, que je sais. Ah oui. Tout le... Alors, le monde de la justice... n'est pas limité aux fonctionnaires de la justice. C'est ça, c'est une des caractéristiques de cette justice. On s'aperçoit aussi qu'elle occupe de vastes territoires dans toutes les banlieues de la ville. Toutes les banlieues, et en particulier les greniers des grands immeubles, sont entièrement occupés par la justice et tous les gens qui approchent la justice, que ce soit les accusés, les peintres de juges ou les gamines des bureaux, etc., tout ça, c'est la justice, c'est le monde de la justice. Alors ce monde est une organisation extrêmement précise, mais dont le sens échappe, comme on disait au début. C'est le sens qui manque, mais l'organisation elle-même, comme vous dites, est très convaincante. Elle est très, 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 très forte, quoi. Et alors, évidemment, les rapports de cas avec cette justice sont ambigus, parce que, par moments... on a l'impression qu'il se révolte contre quelque chose qu'il trouve absurde. C'est-à-dire un néant ridicule, comme il a dit au début. Et puis, à d'autres moments, au contraire, on a l'impression que lui-même appartient à la justice. Bien sûr, puisqu'il est accusé, il appartient à la justice. Sur Kafka, il faut sûrement que vous ayez le témoignage de Derrida, n'est-ce pas, qui a écrit des choses très passionnantes sur Kafka et sur Blanchot lisant Kafka. En particulier dans les rapports avec la loi, où la loi a besoin du criminel autant que le criminel a besoin de la loi. Ils ne sont rien l'un sans l'autre. Ils forment une espèce de couple tout à fait solidaire. Et c'est cette solidarité avec la justice, que, avec la loi, donc, que découvre peu à peu l'accusé Joseph K. Il y a un dernier passage très célèbre, alors que je pourrais lire, mais on a peut-être assez comme ça, c'est l'allégorie de la porte. De la porte de la loi devant lequel un gardien monte la garde pour empêcher le...
Qu'est-ce qui pousse un romancier comme Kafka à créer un personnage comme le peintre, c'est-à-dire un faiseur d'images, pour introduire comment dirais-je, la hiérarchie juridique?
Je sais pas.
Vous, en tant que romancier, qu'est-ce que vous avez comme réponse? C'est quand même pas innocent, ça, non ?
Bah, de toute façon, le peintre a, quand on le connaît avec plus de précision dans d'autres chapitres, il a un rôle très particulier. C'est lui qui donne la majesté aux juges. Car les juges sont tous des petits êtres minables. Sauf peut-être les grands juges supérieurs, mais que personne ne connaît. Ceux qu'on connaît, c'est des petits êtres minables qui se font peindre dans tout l'appareil de la splendeur, de la majesté, de la force. sur des trônes, dans des costumes d'apparat, etc. J'ai été jugé une fois par ce tribunal. C'est peut-être pour ça que j'y mets tant de conviction. Un de mes films, qui s'appelle « Le glissement progressif du plaisir », a été condamné en Italie pour outrage aux mœurs. Et je ne suis pas allé au procès en première instance, parce que ça se passait à Palerme, à un moment où je ne pouvais pas y aller, et on m'avait dit que la justice italienne, de toute façon, n'était pas quelque chose de sérieux, que ce n'était pas la peine de me déranger. Néanmoins, je suis condamné, et je vais à la cour d'appel. Et alors, ça se passait un 14 juillet à Venise. C'est très, très étonnant d'avoir... Qu'est-ce qui pousse un romancier, vous me direz, à inventer des choses pareilles, n'est-ce pas? Car c'est fait, effectivement. Vous savez ce que c'est que Venise le 14 juillet, à une époque où il n'y a absolument que des touristes japonais qui photographient le Pont des Soupirs et la place Saint-Marc. Et la cour d'appel de la province est un des palais en ruine sur le Grand Canal. C'est le palais qui est juste à côté de l'hôtel Gritti. Alors, moi j'étais cité, je crois, comme témoin au départ. En revanche, était accusé le président-directeur général de la Médusa, qui est pratiquement la Gaumont italienne, un personnage d'une suprême distinction et élégance, dans un costume blanc et de manière tout à fait de grand seigneur. Alors, nous étions à l'hôtel Luna et un motoscaf nous attendait pour aller aux séances. Et alors, on abordait au palais, par son quai, n'est-ce pas, comme on doit faire. Et puis alors, on entrait dans d'immenses halls délabrés, des colonnades, des salles somptueuses, grandioses, etc., mais en ruine, complètement en ruine, et tellement en ruine que la justice s'était réfugiée dans les greniers. Des greniers où il faisait une chaleur incroyable, absolument. C'est-à-dire, le 14 juillet, sous un ciel de plomb à Venise, qui croupit dans sa... Les greniers de cette cour d'appel, c'était... absolument intenable. Et visiblement, les juges ne pensaient qu'à une chose, c'est à se débarrasser de leur costume d'apparat. Car dans ces espèces de soupentes misérables, il y avait un Christ géant, d'une part, qui allait du haut en bas du mur, du plancher jusqu'au plafond, et devant, alors les juges, en manteau d'hermine et de velours rouge, mais quelque chose d'incroyable dans la somptuosité et dans le démodé, il faut bien dire. Et alors, j'ai été jugé et condamné, d'ailleurs, avec des raisonnements, mais qui sont tout à fait dignes de cela. En particulier, l'avocat général ne voulait pas que je parle. Alors, c'était drôle, j'étais venu de Paris pour parler, et un assesseur a dit, mais enfin, on l'a fait venir comme témoin de Paris. Et l'avocat général a dit, mais justement... il faut d'abord que nous décidions s'il est entendu comme accusé ou comme témoin. Car nous ne l'écouterons pas de la même façon suivant qu'il est accusé ou témoin. Et alors, mon avocat a dit, mais en tout cas, il est cité comme témoin, donc on peut l'entendre comme témoin. Non, il y a peut-être une erreur dans la citation, il est peut-être accusé. Ça prenait des proportions tout à fait étonnantes, n'est-ce pas? Et mon avocat dit, mais c'est impossible, il n'a rien fait contre la justice italienne, il a fait un film en France... que quelqu'un d'autre a vendu à une troisième personne en Italie. Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Ah, on ne sait pas. Il a fait le film, et c'est le film qui est accusé. Donc, lui, puisqu'il est l'auteur du film, ça prenait des proportions étonnantes. Et on a lu la condamnation de première instance, qui était une condamnation pour non-narrativité. C'est-à-dire, l'acte disait... un artiste a le droit de montrer des scènes déshabillées si elles sont justifiées par les nécessités de l'intrigue. Nous avons vu le film « Glissement progressif du plaisir » de M. Robbe-Grillet et nous n'avons rien compris à l'intrigue, donc elle ne comporte aucune nécessité. Donc les scènes en question ne sont pas des scènes justifiables et M. Robbe-Grillet est un pornographe. Alors mon avocat a fait remarquer que c'est grâce à ce raisonnement que les films pornographiques passaient tranquillement en Italie sans jamais être inquiétés, puisqu'évidemment les nécessités de l'intrigue étaient toujours respectées. Le goût du public, disait mon avocat, étant justement celui du tribunal. C'est-à-dire que ce sont les mêmes films qu'il aime et pas du tout ce Robbe-Grillet, évidemment. Et alors ça a duré comme ça des heures et alors par moments, très, très souvent, même on l'entend une petite sonnette et c'était une interruption de séance. C'est-à-dire que tout le monde, la cour se retirait pour délibérer. Alors, ils allaient se déshabiller sûrement dans une pièce à côté parce qu'ils étaient... Et dans la salle où on était, tout le monde se déshabillait. les avocats, les autres accusés, car il y avait d'autres gens pour d'autres causes qui attendaient, etc. Tout le monde se faisait habiller, puis on entendait une petite sonnette, on se rhabillait tous en vitesse, et on recommençait, etc. Il y a eu de très grands moments. En particulier, la plaidoirie de l'avocat, un moment qui a dit « j'ai honte pour mon pays », parce que la justice italienne, nous la connaissons, et on sait bien que c'est ça, n'est-ce pas? Mais quand je pense qu'on fait venir un noble étranger connu de surcroît qui va raconter chez lui ce qu'on fait ici, j'ai honte. Mais le côté grenier, surchauffé, alors ça m'a tout à fait frappé, quoi. Et alors, la conclusion pour Glissement était très drôle, le film a été condamné au bûcher. C'est-à-dire que à la destruction de toutes les copies par le feu, du négatif italien, par le feu, etc., sur la place publique. C'est drôle parce que c'est l'histoire du film. C'est l'histoire de la sorcière. Et le bûcher figure dans le film, déjà.
Bernard Lortolari.
Vous auriez des exemples de burlesques évités par Vialatte, mais retrouvés par vous?
Oui, il y a par exemple une scène qui... Je vous disais tout à l'heure que c'était une œuvre assez théâtrale. Eh bien, comme souvent dans les œuvres théâtrales, il y a dans le procès dès le premier chapitre du théâtre sur le théâtre. C'est-à-dire qu'après avoir vécu cette scène d'arrestation totalement incompréhensible, Joseph K., le soir suivant, va la raconter, cette scène, à sa voisine de palier, dans cette pension de famille où il est logé. Et il va non seulement la raconter, mais il va la mimer. C'est-à-dire qu'il va mettre en scène cette arrestation qu'il a vécue sans la comprendre. Et il fait ça avec un enjouement et à la fois une incompréhension encore accrue qui donne quelque chose qui pourrait être très drôle, même porté à la scène ou à l'écran, comme on l'a fait souvent. Le procès était souvent transformé en spectacle. Mais même dans la narration, ça donne des choses assez, assez amusantes. Je vous donne un bref exemple, si vous voulez. Joseph K., donc, en pleine nuit, c'est-à-dire de façon tout à fait incongrue, d'une certaine façon, raconte à sa voisine, qu'il ne connaissait pas jusque-là, comment il a été arrêté le matin même. Alors, il lui dit ceci... Il faut bien vous représenter la disposition du personnage, c'est très intéressant. Je suis l'inspecteur. Là, sur la malle, sont assis deux gardiens. Et devant ces photographies, il y a trois jeunes gens, debout. À la poignée de la fenêtre est pendu, je le dis en passant, un corsage blanc. Et maintenant, on commence. Ah oui, j'oublie que je suis là, le personnage le plus important, moi, est debout devant cette petite table. L'inspecteur est très confortablement installé, les jambes croisées, le bras négligemment passé derrière le dossier, comme ceci. Un butor, comme on en fait peu. Et maintenant, on commence pour de bon. L'inspecteur m'appelle, comme s'il fallait me réveiller. Il pousse un vrai cri, et pour bien vous faire comprendre les choses, il faut que j'en fasse autant. Il a d'ailleurs juste crié mon nom, etc. Il va se replonger dans cette scène, sans davantage la comprendre d'ailleurs, mais pour essayer de la maîtriser, pour essayer de la surmonter. Et alors, je trouvais que dans les traductions, ou la traduction antérieure, ça devenait une espèce de monologue intérieur, de rêverie sur l'arrestation, alors que c'est, chez Kafka, quelque chose de beaucoup plus immédiat.
Kafka était un écrivain drôle, vous croyez, dans la vie, dans le quotidien?
Écoutez,
qui marchait sur les mains, comme je l'ai lu récemment.
Oui, c'était quelqu'un qui était tout à fait capable de faire le pitre. C'était quelqu'un d'extrêmement affable, et de très souriant, de très timide parfois aussi, mais qui avait un sens aigu du comique, et du comique théâtral en particulier. C'est quelqu'un qui avait un grand sens du corporel. On dit souvent Kafka abstrait, Kafka désincarné dans sa langue, etc. C'est peut-être vrai en partie de sa langue, mais c'est quelqu'un qui, inversement, enfin, avait un sens aigu du comique gestuel.
Thank you. Vous savez, je crois qu'on se dispense de lire Kafka parce qu'on est persuadé que maintenant, c'est un pur concept, qu'on a intégré ce que c'est que l'univers kafkaïen, et qu'à la vérité, le lire serait presque inutile. Alors, je suis persuadé que c'est très utile de le lire, mais je constate qu'effectivement, quand on va vers son œuvre, on rencontre des choses qui étaient déjà là, en chacun de nous, et forcément encore plus... dans la personne des gens qui sont mêlés à la justice.
Georges Kijman.
Je crois important que Kafka, finalement, ait traité du procès avec une connaissance très concrète de ce qu'était la procédure, les tribunaux. C'est pas quelque chose d'abstrait et de purement métaphorique pour lui. Il faut rappeler quand même que Kafka fait des études de droit, qu'il a fait un stage de plus d'un an au tribunal de Prague, dont il a connu toutes les sections, non seulement civiles mais pénales, et que ça n'est qu'ensuite qu'il s'est en quelque sorte dirigé vers une profession extérieure au palais de justice en devenant un fonctionnaire, on peut dire ça, d'une société mixte à la fois privée et publique qui s'occupait des assurances du travail. Alors, si je rappelle ça, c'est parce que on se rend compte en le lisant qu'il emploie toujours le mot précis et que s'il décrit des scènes, par exemple des scènes d'arrestation, avec un réalisme tout à fait fascinant, c'est que, à mon avis, il raconte des scènes auxquelles il a pu assister, qui ne sont pas simplement nées de son imagination. Alors la grande question que se pose un homme de justice, c'est comment se fait-il que Kafka, par la simplicité de son vocabulaire peut-être, par la simplicité des scènes qu'il expose, non seulement décrit des procès qui pourraient être des procès réels, mais décrit déjà des situations qui, se détachant cette fois-là du procès réel, décrivent le cauchemar concentrationnaire, par exemple le cauchemar nazi, que, après tout, il n'a pas connu. Car si vous pensez, par exemple, aux conditions dans lesquelles il décrit l'arrestation de Joseph K. dans le procès, vous voyez que, effectivement, il ne parle plus de ce qu'il appelle d'ailleurs la justice des tribunaux, mais qu'il appelle la justice de grenier, une justice distincte, différente, et qu'en réalité, à partir d'images empruntées aux tribunaux de tous les jours, il est tout d'un coup prêt à mettre en scène la culpapabilité déontologique, la culpapabilité de l'être. Et ce qui est extraordinaire, c'est que il le fait toujours, encore une fois, en restant très concret. Lorsque Joseph K., dans le procès, voit arriver les gens qui viennent l'arrêter, il s'inquiète bien sûr de l'autorité qui les a envoyés, des causes de son arrestation. Il s'apprête à donner un coup de téléphone à un procureur de ses amis. Il fait les mille choses qu'une personne qui ne comprend pas pourquoi elle est arrêtée ferait. Mais, au-delà de ça, il y a une sorte d'acceptation de Joseph K. devant le procès qui, là encore, est à la fois une acceptation tout à fait intemporelle, qui est liée à l'être, et puis qui ne peut pas ne pas renvoyer, si je peux dire, dans ce qui était le futur par rapport au moment où Kafka écrit, qui est l'acceptation, par exemple, de certains membres de la communauté juive devant une persécution dont elles ne comprennent pas le fondement moral, mais qui est une persécution à laquelle, dans une certaine mesure, elles ont consenti. Et c'est en ça que Kafka me paraît peut-être le plus clairvoyant. C'est dans la manière de bien souligner que chacun consent au procès qui va lui être fait, si injuste, si incompréhensible que puisse paraître ce procès.
Et que fait-il de la loi, selon vous ? Enfin, parce qu'il essaie de l'aborder, de la transcender, mais aussi il la voit comme un piège. Il lui arrive même de piéger la loi.
C'est, la loi est un piège, n'importe comment. Le mérite de Kafka, c'est de montrer que la loi est une règle qui contraint, alors que personne n'en connaît ni le contenu, ni la justification. Bon, bien sûr, chacun de nous est prêt à admettre qu'il y a des lois qui ont un contenu clair, celles qui défendraient la propriété privée ou de l'État, peu importe. Alors celui qui commettrait un geste simple, comme voler un autre, relèverait de la loi. Kafka fait allusion à ce genre de situation extrêmement simple, quand par exemple... Il écrit les dialogues des conversations de Joseph K. dans le procès avec sa logeuse ou avec d'autres femmes qui lui disent « Ah, mais vous n'êtes pas un criminel, vous n'avez pas volé. » Mais enfin, très vite, il en revient à l'essentiel, c'est que ces broutilles, ces délits, ces crimes que tout le monde peut comprendre. La loi est une interdiction plus vague, plus abstraite, qui pèse sur chacun de nous, qui nous maintient en état de dépendance et qui par là protège un ordre, mais quel ordre, on ne le sait pas. Et d'ailleurs, quand l'abbé, dans un des chapitres du procès, lui raconte l'histoire du gardien de la loi, eh bien c'est très caractéristique. Le gardien garde la loi, mais finalement, puisqu'on ne peut jamais rentrer dans la maison de la loi, on n'en connaît, encore une fois, jamais le visage de la loi.
Alors quel est le statut d'un avocat face à la loi? Vous qui dites que la loi est un piège?
Ce statut, ou en tout cas le rapport de l'avocat à la loi, il évolue avec le temps. Au début, on a tendance à considérer que la loi, évidemment, est justifiée, que le problème, c'est de savoir si un individu déterminé l'a enfreint ou ne l'a pas enfreint. Mais plus on vieillit, en âge et peut-être pas en sagesse, et bien plus, avec Kafka, on a envie de se dire « Mais pourquoi est-ce que je considère que la loi... impose son respect sans même avoir à s'expliquer sur ce qu'elle est, sur ce qui la justifie. La loi devient quelque chose de plus en plus abstrait. Vous savez, les gens disent, c'est un proverbe qui n'est d'ailleurs écrit nulle part, « Nul n'est censé ignorer la loi ». Mais c'est devenu quelque chose d'assez comique avec le temps, parce que si autrefois la loi était l'expression de quelques valeurs très simples, aujourd'hui c'est une sorte de maquis bureaucratique, un amas de textes dont précisément on ne retrouve jamais le fondement moral commun. Alors aujourd'hui, nul n'est censé ignorer la loi, c'est plutôt un propos ironique comme pourrait en tenir Kafka précisément, hein, comme il en a tenu très souvent. Nous savons que la loi existe, nous ignorons tous ce que l'est.
Vous disiez tout à l'heure, avant l'entretien, qu'il existe l'effet K.
L'effet Kafka ?
Le phénomène Kafka.
Il existe sans aucun doute dès qu'on est mêlé au processus judiciaire. Parce que, de même que Joseph K, dans le procès, est toujours ignorant de ce qui va lui arriver, eh bien, toute personne mêlée à un procès est ignorante de ce qui va lui arriver. Bon, elle sait très bien qu'il y a des textes, mais la sanction, elle est très théorique. Finalement, elle sera prononcée par un tribunal dont on ignore au moment de l'instruction qui le composera. On croit qu'on pourra s'expliquer devant lui. On s'aperçoit qu'on ne lui aura pas dit l'essentiel, que finalement, quand la peine sera prononcée, elle apparaîtra toujours hors de proportion avec ce qu'elle vient sanctionner, de telle sorte que je ne connais pas de condamné, par exemple, dans la vie, qui ait eu le sentiment d'avoir été réellement jugé.
Il y a pas mal d'avocats dans l'œuvre de Kafka.
Oui, il y a beaucoup d'avocats. Il les traite toujours avec beaucoup d'ironie. Là, il a raison, à mon avis. Mais en tout cas, on s'aperçoit finalement que ces avocats sont de peu de secours. Et que l'accusé, dans l'œuvre de Kafka, cherche toujours une aide ailleurs. D'abord chez les femmes, ce qui est à la fois reconnaître leur nécessité et en même temps se poser une fois de plus de manière ironique par rapport à la justice, parce que finalement, l'œuvre de séduction est effectivement le meilleur rempart contre les prétendues rigueurs de la justice. Mais je ne vois pas que Kafka leur ait accordé, encore une fois, une importance symbolique et énorme. Au fond, les avocats sont presque sur le même plan que les huissiers, les femmes de ménage qui mettent un peu d'ordre dans la salle d'audience. C'est certainement pas eux qui sont les interprètes de la loi.
Mais qui, selon vous, plus directement?
Mais il n'y a pas d'interprète de la loi. La loi reste mystérieuse jusqu'au bout. C'est peut-être ce qui, d'ailleurs, la caractérise. Ce qui est curieux, d'ailleurs, c'est que les condamnés eux-mêmes croient à une loi et croient que cette loi est transgressée par les autorités qui les ont condamnés. Moi, c'est le dialogue que j'ai peut-être eu le plus souvent avec les personnes dont je me suis occupé. Mais comment j'étais prêt à faire confiance au tribunal, ou j'étais prêt à faire confiance à l'administration pénitentiaire ou au ministère de la Justice, et voilà qu'ils méconnaissent la loi, et dans ces conditions, s'ils ne jouent pas le jeu, pourquoi est-ce que moi je le jouerais? C'est fou, cette confiance des gens qu'on poursuit pour avoir enfreint la loi, cette confiance dans la loi. Du point de vue de l'avocat, il y a une chose très fascinante dans Kafka. C'est que, encore une fois, il distingue la justice réelle, celle qu'il a observée, encore une fois, la justice des tribunaux, et puis une justice parallèle, beaucoup plus mystérieuse, abstraite, métaphysique. Alors le lecteur peut se dire, cette deuxième justice, par opposition à la justice des tribunaux, c'est une justice de fantaisie, née de l'imagination de Kafka. Or, ce serait tombé dans un piège. Parce que cette deuxième justice, terrible, mystérieuse, qui a l'air d'être le contraire de la première justice, que chacun vit comme une institution très claire, c'est à l'évidence la même. Je dirais même que c'est l'essence de la première justice. Dans la colonie pénitentiaire, on voit un explorateur savant venir de contrées lointaines dans ce territoire où un officier est la justice à lui tout seul. Et alors, il lui pose des questions sur la manière dont on condamne les gens. L'officier répond « Ah, la faute est toujours certaine ». Est-ce qu'on leur donne l'occasion de se défendre? Ah non, dit l'officier, parce que ce serait leur permettre de rendre tout confus alors que tout est clair. Et puis finalement, la peine est exécutée très simplement par une machine très cruelle. On inscrit dans la peau du condamné la règle de droit qu'il est censé avoir enfreinte. Alors on se dit, vraiment, ça c'est une justice imaginaire. Mais si on y réfléchit, c'est au contraire la justice la plus banale. La faute est toujours certaine. Des bivesés comme on est présumé innocent n'existent pas dans la justice de tous les jours où on est très facilement condamné au bénéfice du doute. La défense est une sorte de procédure essentiellement destinée à donner bonne conscience et au juge et surtout à la société qui l'a mandatée. Quant à la condamnation, quelle que soit la forme qu'elle prend, elle s'inscrit toujours très clairement dans votre chair, dans votre peau, parce que la détention, par exemple, en prison, c'est pas simplement la privation d'aller et venir, c'est effectivement une manière de prendre conscience avec tous les pores de sa peau que désormais on est retranché du monde. Alors, c'est ça qui me paraît très extraordinaire dans Kafka et qu'on perçoit mieux au bout de 30 ans d'exercice de la justice que lorsqu'on est un jeune stagiaire se rendant pour la première fois au tribunal, c'est que la justice est à la fois profondément nécessaire, sans doute, et profondément injuste.
Vous êtes à l'écoute de France Culture. Journée Franz Kafka à l'occasion du 100e anniversaire de sa naissance. Posloucháte Radio France Culture. Tato emise je věnovaná Franzi Kafkovi k stému výročí jeho narození.
C'était le cinquième de 9 épisodes de la journée Kafka d'Isabelle Huel, Jacques Taroni et Jean Dave, diffusé pour la première fois sur France Culture le 17 septembre 1983. Téléchargement et réécoute sur le site de France Culture à la page des nuits et sur l'application Radio France.